Du coup, cette fin un peu abrupte en la relisant, je me dis, bon, j'exagère quand même un peu. Mais je suis content parce que je pensais être beaucoup plus véhément dans cette lettre et en fait, ce n'était pas du tout l'objet d'être accusateur de quoi que ce soit. Simplement, la question du genre, que ce soit au niveau du choix d'un rôle pour un élève acteur ou que ce soit dans l'identité même d'un acteur, je ne sais pas si c'est le cas pour certains d'entre vous d'avoir des élèves qui se manifestent en disant je suis en transition, je me pose des questions sur mon genre. Les configurations sont multiples. Et aussi dans le choix des rôles. En fait, très souvent, ça amène à des débats comme si c'était quelque chose d'un peu volontariste de la part de l'élève, comme s'il y avait un côté militant, un effet de mode, pour citer Arnaud Meunier, qui, pendant le concours de Saint-Étienne l'année dernière, a écrit un courrier à tous les candidats à l'issue du premier tour, qui est très bien, où il fait des retours généraux sur le déroulé du concours, sur peut-être des répertoires qui ont été plus observés que d'autres, des approches qui ont été faites, la façon dont eux procèdent à leur choix aussi, les manques de maturité qui ont pu être observés, etc. Et vers la toute fin de la lettre, il y a un petit paragraphe où il précise « le concours a été très marqué par une volonté de dégenrer, avec des guillemets, les rôles, et en suggérant qu'il serait bon d'arrêter cet effet de mode. » Et là aussi, je cite. Donc comme si cette question n'était pas quelque chose d'intime. Alors que toute la lettre encourage les élèves à venir avec des textes qu'ils ont envie de porter, qui les engagent personnellement. Qu'on ne se retrouve pas en tant que jury à avoir une centaine de candidats où on ne comprend même pas pourquoi la personne est venue parler. Et pourtant, cette lettre se termine sur cet effet de mode. Donc, cette incompréhension que des personnes puissent porter un texte qui grammaticalement n'est pas attribué au genre de naissance de l'acteur qui va le porter. C'est des discussions que j'ai eues aussi enfin, à l'école départementale et avant au conservatoire de Tours avec mes professeurs sur des choix de textes. Et ça n'a jamais été politique de ma part. J'ai choisi des textes parce que je les aimais. Et la première fois que je passe un concours et que je réussis à avoir un premier tour, c'est en jouant un monologue de femme au TNS. Et dans les échanges que j'ai avec le jury du TNS, on me demande, mais pourquoi un texte de femme? Et je trouve la question tellement bête, parce que je trouve que le monologue de Claudine Galéa était magnifique, et c'est la seule raison. Voilà. Comment dire? Dans la façon d'incarner, forcément, quand on joue une femme ou un homme, ça existe parce qu'on lui attribue un certain comportement. Et parce que notre société différencie les hommes et les femmes, et les traite différemment. Et surtout, quand un texte est écrit à telle ou telle époque, les conventions sur ce que sont la virilité et la féminité changent aussi. Et c'est à prendre en compte, ou pas d'ailleurs, ça dépend du choix du metteur en scène, dans la manière de choisir un texte. Mais j'ai rencontré beaucoup d'enseignants qui avaient une vision du théâtre, et heureusement, je suis content de travailler avec des gens qui ont une vision du théâtre. Mais qui étaient tellement persuadés de cette conviction des genres qu'ils en avaient oublié que c'était une perception personnelle de leur part. Et pour ma part, on m'a toujours demandé de me justifier quand je jouais à une femme, mais on m'a jamais demandé de me justifier quand je jouais à un homme. Alors que s'il s'agit de rouler des mécaniques ou de jouer des beaux gros bras, je suis autant éloigné du personnage que si je dois porter des talons sur une scène. Ce qu'on m'a déjà demandé de faire pour mieux incarner une femme aussi. Et que je trouve particulièrement choquant. Que je trouve insultant aussi pour mes camarades comédiennes. Au niveau de la langue, je pense que le théâtre est à valeur performative, que la langue est performative, et que si je parle au féminin, la convention est faite que je suis une femme. Et il n'y a pas d'autre question à se poser. Et cette question s'est toujours posée sur le genre, mais jamais sur des problèmes d'âge ou ce genre de choses. c'est toujours la même problématique. Pourtant, l'argument de tu n'es pas une femme, donc il faut y réfléchir, il faut que ça passe par des codes. Et ben, avec cette même réflexion, c'est deux poids deux mesures quand il s'agit de traiter un vieillard, par exemple, ou un enfant. Et quand j'ai joué Hermione pendant très longtemps, parce que c'est plusieurs passages de Andromaque, j'en ai travaillé pendant longtemps. Quand je suis sortie du confinement, j'avais une moustache. Et là, la réflexion était autre parce qu'on m'a dit tu ne peux plus incarner Hermione parce que tu n'as plus ce physique androgyne avec un visage glabre. Donc, une moustache m'empêche de dire des alexandrins, genrés au féminin. Je comprends que dans la perception, il y a des. On porte, malgré soi ou par choix, on véhicule des attributs qui sont casés dans deux catégories, masculin ou féminin, et que moi aussi, en tant que spectateur, si je vois quelqu'un avec une moustache sur une scène, dans mon cerveau, immédiatement, c'est un homme. Mais je pense que tous ici, vous êtes d'accord pour dire qu'au théâtre, on n'est pas forcément, on n'est pas là pour une recherche de réalisme, qu'on est là aussi pour être dans un travail de création, de transgression, et surtout de transposition, plus généralement. Et ces questions-là, en fait, pour qu'elles soient intégrées par les jeunes comédiens, je pense qu'elles devraient passer par une absence de remise en question de leur choix sur la question du genre de leur texte. Ça, c'est une opinion qui ne regarde que moi. Mais c'est quelque chose en plus qui, au-delà d'un simple travail de plateau, de comédien et de réflexion sur l'art qu'on porte, peut être extrêmement violent pour des élèves dont les questions qui vont être portées au plateau peuvent être aussi des questions intimes du quotidien. Et quand un enseignant vient donner une réponse à quelqu'un qui se pose des questions tout le temps avec une certaine nonchalance, une facilité, en disant « mais si, c'est comme ça, pour parler d'un art », il ne se rend pas forcément compte qu'il est en train de plaquer une réponse aussi sur la recherche identitaire de la personne qu'il a en face de lui. Et c'est des choses extrêmement douloureuses que j'ai pu vivre avec certains camarades comédiens. Et j'avoue avoir déjà été cette personne qui dit « Mais non, tu prends trop les choses personnellement. Il dit ça pour toi, c'est génial. Tu devrais être content que le maître te fasse des retours et te fasse travailler. C'est une provocation, ça devrait te nourrir. » Tu devrais avancer. Là où des propos atteignent parfois une limite inadmissible que j'ai encore du mal à déterminer. Et la question d'un cadre bienveillant et des règles fixées dans une école d'art peuvent être très compliquées parce qu'on travaille avec l'intime tout le temps. Et moi aussi, je ne sais pas où est la limite. Et comme je suis très jeune et que je m'oriente en tant que comédien, metteur en scène, je suis peut-être amené aussi à faire de l'enseignement. Et ça m'intéresse vraiment de discuter avec vous aussi de ces questions-là. Parce que je ne sais pas où mettre la limite entre dire à quelqu'un « fais ça, dépasse-toi, va au-delà, remets-toi en question et peut-être remets en question ta propre perception de la vie, ta construction de vie. » Parce que c'est ça aussi qui va sculpter ton art. Où est la distinction entre l'artiste et le gourou? Où est la frontière? Elle est extrêmement mince et quand ça bascule, ça devient intolérable.